Le 28 novembre 2024, le président français Emmanuel Macron a reconnu dans une lettre au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye le massacre de Tiaroy. Le massacre de tirailleurs sénégalais par l'armée française en 1944. Et cette reconnaissance, cela faisait 80 ans qu'elle était attendue, au Sénégal comme en France. 80 ans que le massacre de Tiaroy exprimait l'ingratitude de l'État français envers ses soldats africains.
Vous écoutez Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Des fronts de stalag à Tiaroy, récit d'un mépris colonial, un épisode signé Emma Fletter.
Tiaroy. Ce nom résonnait déjà dans un poème écrit en décembre 44 par Léopold Sédar Senghor.
Prisonnier noir, je dis bien prisonnier français. Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage?
Il est poète, homme de lettres, déjà reconnu à l'époque, et il deviendra plus tard le premier président du Sénégal indépendant. Tiaroy. Ce lieu au bord de l'océan, juste à côté de Dakar. Et là-bas, le 1er décembre 1944, le bruit des automitrailleuses a couvert le cri des mouettes. Les morts appartenaient à un groupe d'anciens prisonniers de guerre, des tirailleurs noirs emprisonnés en France. Ces tirailleurs avaient gagné des francs à faire la guerre, à travailler dans leur prison. Sauf que l'état-major français n'avait pas fini de les payer et voulait les renvoyer aux quatre coins du Sénégal et de l'Afrique. Les soldats se rebellent, réclament leur argent. Les officiers blancs ont peur d'une supposée mutinerie, alors ils tirent sur leurs propres hommes. D'après les historiens, plus d'une centaine de tirailleurs perdent la vie ce jour-là. Dans son recueil « Hostie noire », rempli de poèmes écrits entre 1939 et 1944, Léopold Sédar Senghor rend hommage à ses frères d'armes, mais aussi à ses frères de prison. Car Léopold Senghor avait un point commun avec les soldats tués à Tiaroy. Lui aussi avait été fait prisonnier par les Allemands durant la guerre. Ils avaient vécu dans des camps qu'on appelait « Frontstalag », des camps érigés en France, occupés par l'armée allemande, où les Allemands conservaient leurs prisonniers issus des colonies, les prisonniers qui n'étaient pas blancs. Avec sa plume, Léopold Sédar Senghor se fait la voix de ces tirailleurs sénégalais emprisonnés et méprisés de leur capture, à leur libération. Paris, avril 1940, Léopold Sédar Senghor écrit
« Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort, qui pourra vous chanter si ce n'est vos frères d'armes, votre frère de sang ?» Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement.
À ce moment-là, Léopold Sédar Senghor a 33 ans. Il a été réquisitionné quelques mois avant l'année 40 par l'armée française. Lui, qui est pourtant le premier prof de lettres noires à enseigner dans un lycée en banlieue parisienne, redevient simple fantassin dans un régiment d'infanterie coloniale. Mai 1940. Les Allemands envahissent la métropole et presque deux mois plus tard, fin juin, Léopold Sédar Senghor est capturé. Il fait partie des 100 000 prisonniers issus des colonies françaises à passer sous le joug allemand. La capture des soldats est brutale, violente et surtout sanglante.
La captivité a souvent commencé avec les massacres de juin 1940, surtout.
Raphaël Tchèque est historien de la Seconde Guerre mondiale et enseigne au Colby College dans le nord-est des États-Unis. Pendant plusieurs années, il a travaillé sur les conditions de captivité de ces prisonniers issus des colonies françaises.
Ces massacres étaient très, très répandus. Il y avait des unités allemandes qui n'ont pas massacré leurs prisonniers. Naturellement, il y a eu probablement une majorité de prisonniers coloniaux qui ont survécu, mais quand même, ces massacres ont laissé une impression très, très sombre parmi les prisonniers, pas seulement les Noirs, mais aussi les prisonniers nord-africains, même si les Noirs étaient les victimes principaux des massacres.
Et ces massacres, ils représentent entre 1500 et 3000 soldats noirs, tués, écrasés par des chars, fusillés au bord des routes par les soldats allemands. Un véritable carnage que décrit Léopold Senghor dans son poème « Assassinat ».
Ils sont là, étendus par les routes captives, le long des routes du désastre. Les sveltes peupliers, les statues des dieux sombres drapées dans leurs longs manteaux d'or. Les prisonniers sénégalais ténébreusement allongés sur la terre de France.
Quant aux prisonniers, les Allemands ne savent pas vraiment comment gérer ces dizaines de milliers de soldats issus des colonies. Ils n'ont pas assez de moyens, ils les envoient de camp en camp. De plus, les prisonniers coloniaux ne sont pas traités comme les autres prisonniers.
Les premières semaines étaient très dures. On peut dire naturellement que la captivité était au début très dure aussi pour les prisonniers métropolitains, pour les prisonniers britanniques et belges. Les prisonniers britanniques étaient mieux traités que les Français. Les Français métropolitains étaient mieux traités que les prisonniers nord-africains et les nord-africains mieux que les prisonniers noirs. Donc, il y avait une hiérarchie raciale. Les endroits où ces prisonniers ont été parqués, pour ainsi dire, pour dormir, étaient toujours complètement surpeuplés pour les Noirs et les Nord-Africains. Ils ont reçu les pires conditions partout. Donc là, il y a une hiérarchie qui se manifeste clairement.
Les soldats allemands ne savent pas où placer ces prisonniers. Ils en envoient d'abord une partie en Allemagne. Là-bas, les prisonniers coloniaux sont maltraités. Et d'ailleurs, les Allemands n'en veulent pas et refusent de voir des personnes noires marcher sur leurs terres. Alors ils les renvoient en France. Au total, ce sont presque 90 000 prisonniers coloniaux qui ont fait l'expérience d'aller en Allemagne avant d'être vite rapatriés en France au bout de quelques mois. Des soldats de l'armée française se retrouvent donc emprisonnés dans la France qu'ils sont censés défendre. Le mépris est total. D'autant que les Allemands décident de mettre ces prisonniers de couleur dans des camps à part, érigés à la va-vite, des camps qu'on appelle les Frontstalag. Au début de la guerre, on en compte une centaine, et Léopold Sédar Senghor est envoyé dans plusieurs de ces camps. Frontstalag 230, près de Poitiers.
C'est un vaste village de boue et de branchages. Un village crucifié par deux fosses de pestilence. Haine et faim y fermentent dans la torpeur d'un été mortel. C'est un grand village qu'encercle l'immobile hargne des barbelés. Un grand village sous la tyrannie de quatre mitrailleuses ombrageuses. Et les nobles guerriers mendient des bouts de cigarettes. Ils disputent les os aux chiens. Ils se disputent chien et chat de songe.
Il a été dans un camp dans la vicinité de Troyes. Et là, c'était un camp qui ne méritait pas le nom de camp. C'était, les prisonniers étaient parqués dans un pré avec des tentes entourées de barbelés, avec très peu de nourriture. Et il y avait beaucoup de pluie aussi en juin, vers la fin juin, juillet 1940. Les maladies étaient très présentes et dangereuses. Donc, il a expérimenté des camps qui n'étaient pas installés très bien encore.
Petit à petit, les conditions dans les camps s'améliorent. Dès 1941, les prisonniers peuvent manger et dormir dans des baraques plus ou moins réchauffées. Les commandants dans les prisons sont remplacés, eux, par de vieux soldats, souvent prisonniers pendant la Première Guerre mondiale et qui savent ce que l'on ressent lorsqu'on est en captivité. Ou alors, ils sont remplacés par des gardiens français, négociés avec Vichy, des soldats français qui gardent d'autres soldats français, une situation inédite. Dans les fronts de Stalag, les prisonniers travaillent. Charbonnage, travaux agricoles ou forestiers, soutien à l'armée allemande. Les conditions sont dures, mais cela permet aux soldats de gagner 8 francs par jour, qu'ils déposent dans des livrets d'épargne. Avec le travail, les soldats rentrent aussi en contact avec la société civile.
Beaucoup de prisonniers ont travaillé chez des fermiers ou chez des civils français. Ils ont mangé avec des civils ou sur la ferme ou dans un restaurant public avec d'autres civils. Donc, ils avaient assez de liberté. Leur statut était toujours de prisonnier de guerre, mais la réalité de vie était comparable plutôt à un travailleur étranger qui travaille dans un autre pays. Certes, c'était gardé, c'était réglementé d'une façon, mais il y avait une liberté relative.
Une liberté relative qui laissait aussi la place à des échanges amicaux entre des soldats noirs, nord-africains, avec des hommes blancs. Les soldats coloniaux se rendent compte qu'ils peuvent être égaux avec les blancs, voire créer des relations. Certains soldats se rapprochent des femmes des villages près des camps, des femmes de France, que Léopold Sédar Senghor remercie pour leur bonté.
Vos lettres ont bercé leur nuit de prisonniers de mots, diaphanes et soyeux comme des ailes, des mots doux comme un sein de femme, chantant comme un ruisseau d'avril. Petites bourgeoises et paysannes, pour eux seuls, vous ne fûtes pas avares. Pour eux, vous osâtes braver l'affront de hyène, l'affront plus morte que des balles.
Rapidement, les effectifs des fronts de Stalag diminuent. De 100 000 prisonniers en 1940, on passe à 30 000 en 1943. Un an avant la fin de la guerre, il ne reste que 8 fronts de Stalag, éparpillés, un peu partout sur le sol français. Plusieurs raisons expliquent cette diminution. Il y a les échanges de prisonniers avec l'Allemagne, les évasions ou les réformes sanitaires. C'est ainsi que notre poète, Léopold Senghor, se fait aider d'un médecin français en 1942 qui prétexte une fausse maladie chez le Sénégalais. Une maladie diplomatique, comme on l'appelle. Cependant, dans les années 40, la médecine et l'hygiène ne sont pas encore au sommet et beaucoup de prisonniers meurent de vraies maladies comme la tuberculose qui fait des ravages. Une fois sortis de prison, les conditions de vie restent difficiles pour les soldats coloniaux. En effet, la France n'a ni les moyens techniques, ni les moyens financiers pour rapatrier ses anciens prisonniers dans leur pays d'origine, ce qui déçoit fortement les tirailleurs.
L'État français les a déçus en ne leur donnant pas leur argent, qu'ils avaient le droit. Le gouvernement français les a aussi déçus en les maintenant sous des conditions très difficiles, avec un mauvais ravitaillement. Et le rapatriement n'a pas fonctionné très bien. Il n'y avait pas assez de bateaux, il n'y avait pas de trains. camions et tout ça, souvent les autorités françaises ont dû prendre recours aux ressources américaines et anglaises pour rapatrier ces soldats. Donc, c'était pas bien pour le prestige de la France, mais c'était naturellement, c'était compréhensible parce que la France était nue, était vraiment pauvre après 4 ans d'occupation allemande.
Résultat, les soldats coloniaux restent bloqués dans des ports ou dans des camps de rapatriement mal organisés. Et la France n'a pas de quoi payer ses soldats et anciens prisonniers. C'est le cas des soldats qui seront fusillés à Thiaroy. Ils appartiennent à un groupe d'environ 1300 hommes. Les hommes veulent rentrer chez eux avec leur argent et ils commencent à se révolter en France quand les officiers français refusent de le leur donner.
Il faut savoir que le mouvement de révolte de ces tirailleurs n'a pas commencé donc en Afrique.
Karfa Diallo est présidente de l'association Mémoire et Partage. Elle coordonne en France les 80 ans des commémorations de Thiaroy.
En France, déjà, lorsqu'ils ont été libérés des fonds Stalag, donc du nord-ouest, donc en Bretagne, ils vont commencer à morler, à effectivement protester, demander que leur solde leur soit versé. Donc c'est là où ils vont commencer la révolte, et puis ça va aller crescendo.
Ce crescendo, ce sont des routes bloquées une fois arrivés à Thiaroy. Ce sont des soldats qui répondent à leur chef et réclament encore leur argent. Le 30 novembre 1944, le commandement militaire français de Dakar annonce lancer une opération armée contre des tirailleurs à l'attitude arrogante et aux prétentions inadmissibles. Le 1er décembre, la répression a lieu et Thiaroy pleure ses morts.
Non. Vous n'êtes pas mort gratuit. Vous êtes les témoins de l'Afrique immortelle. Vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain.
80 ans plus tard, Thiaroy est devenu le symbole de l'ingratitude française et des relations postcoloniales. Une ingratitude d'autant plus grande que l'État français a mis du temps à reconnaître la faute de ses soldats.
C'est qu'on a là un voile qui a été insidieusement jeté sur la contribution des Noirs et de leurs descendants. Et puis, c'est vrai, ça nourrit cette colère de la jeunesse africaine. On voit comment la France est chassée de plusieurs pays africains de plus en plus. Et tout ça se nourrit du sentiment d'injustice que les Africains, que leurs descendants, que la diaspora a vis-à-vis de la façon dont la France a mis en place le processus de décolonisation, parce que c'est un processus de décolonisation qui est véritablement inachevé dans la mesure où à la fois les questions mémorielles n'ont pas été soldées dans toute leur vérité et réparées, mais en même temps on a la persistance de bases militaires françaises, une domination monétaire notamment. Voilà, tout ça effectivement fait que Thiaroy est emblématique de cette relation et l'évolution récente permet justement d'y travailler.
Même si le président français, Emmanuel Macron, a reconnu le massacre de Thiaroy, même si des tirailleurs sénégalais morts à Thiaroy ont été reconnus morts pour la France en juin dernier, des zones d'ombre persistent. L'association de Karfa Diallo souhaite ouvrir une commission d'enquête pour Thiaroy, ce qui permettrait aux historiens d'accéder à des documents militaires, de fouiller les fosses communes. Après la reconnaissance de ce crime colonial, il est l'heure désormais de rétablir la vérité.
C'était Oppression, le podcast de la section radio du QEJ consacré au racisme. Cet épisode a été imaginé et fabriqué par Emma Fletter en novembre 2024. Les textes de Léopold Sédar Senghor ont été lus par Judy Diallo. Coordination, Thomas Rozek et Céline Aslo. Réalisation, Jean-Christophe Galen. Tous les épisodes sont à retrouver sur le site du QEJ, QEJ.info.